Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Raffut. Je suis ravi de vous retrouver pour l'épisode 15 de la saison 6 avec toujours à mes côtés Arnaud Beurdelet, journaliste Midi Olympique. Salut Arnaud.
Salut Raph, bonjour à toutes et bonjour à tous. Poulain Raffut, vous le savez, c'est le podcast qui raffute le rugby en long, en large et en travers. Au menu aujourd'hui, d'abord, comme chaque semaine, Raph nous servira à son humeur du jour. Ce sera la ruade de Poulain. Dans la deuxième partie, nous aurons la chance de recevoir le manager de la section paloise, Sébastien Piccheroni. Enfin, dans la troisième et dernière partie, place au débrief. Moi, je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toute la bonne plateforme d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Avast, pardon, ou Apple Podcast. Surtout, abonnez-vous pour ne rien rater de la saison. Alors, vous êtes prêts pour la Raffut saison 6, épisode 15. C'est parti. Allez, première partie de Poulain Raffut. Aujourd'hui, Raph, on va parler de la fonction de manager dans le rugby, une fonction qui englobe de nombreuses responsabilités. La responsabilité des managers est de plus en plus grande. Et dans cette fonction, on retrouve tout un tas de personnalités très différentes. Et ça, tu avais envie d'en parler.
Oui, Arnaud, être manager dans ce microcosme rugbystique, c'est un sacré métier. À l'heure où les générations changent, à l'heure où les modes de management évoluent, à l'heure où l'on croise un spécialiste de tout, et surtout de pas grand-chose, à chaque coin de rue, je voulais me pencher de manière artisanale, amatrice, en mode coin du bar, sur ce boulot chronophage et qui a l'air tellement passionnant. Pour moi, la seule certitude que j'ai concernant le boulot de manager, et pour avoir été managé par l'un d'entre eux, c'est que les meilleurs joueurs ne font pas obligatoirement les meilleurs managers. Bref, ceci étant dit, passons aux choses sérieuses et sans se prendre trop au sérieux, justement. Imaginez un microcosme à la fois fraternel, qui se dit familial, où les égos fleurissent au fil des entraînements, au fil des matchs. Il y a la fougue des jeunes, l'expérience des anciens, il y a les ambitieux, il y a les introvertis, les naïfs, les caractériels, les branleurs, les extravertis, les taiseux. Il y a des vies de famille avec des divorces parfois, des naissances souvent. Il y a la pression inconsciente des parents, il y a des deuils à faire, des émotions à gérer tout le temps. Il y a aussi la manière dont chacun trouve sa place dans le groupe selon l'âge, la personnalité et la manière de gérer le succès, les blessures et la notoriété. Tout ce joyeux bordel doit se structurer au fil des semaines avec en ligne de mire la volonté inassouvie de performance individuelle à aligner sur celle du collectif. Il y a la notion de guerre, d'esprit d'équipe, d'engagement, de don de soi, de combat. Il y a aussi l'adversité, être au soutien, la gestion des égos, des joueurs, mais aussi du saint patron qui veut que ça brille et que ça gagne, parfois trop vite. Il y a aussi la part de chance et la manière dont le groupe s'approprie le projet. Et puis, il y a les fameuses grandes valeurs à respecter. Bref, si tout n'est pas géré d'une main de maître, ça brille. En chef de meute, en chef d'orchestre, le manager est celui qui fait en sorte que tout ce joli bordel ambiant devienne harmonieux sur le terrain chaque week-end et tout au long de la saison. Il est à la fois psychologue, maternant, figure tutélaire, paratonnerre et tampon, gérant la pression du résultat avec ses acolytes, avec son staff. Il est le garant des engagements pris au début d'une aventure dont la fin est indécise, gérant les critiques, les louanges, les menaces et les conflits sur et surtout en dehors du terrain. Selon moi, il faut être complètement cintré pour avoir été joueur pendant une bonne vingtaine d'années et y retourner pour manager. Tout ça en mode CDD, sachant qu'à tout moment, si la maillot prend pas, tu peux te faire lourder. Bah oui, pour eux aussi, il y a une vie de famille à gérer, une vie d'homme à vivre. Et dans un monde où le succès individuel, éphémère et fantasmé, l'emporte parfois sur le vivre ensemble, dans une société où la réussite d'une carrière prévaut sur la réussite collective, il en faut du courage pour y retourner et tenter de gagner en équipe et faire perdurer le vivre ensemble. Sacré bordel que tout ça, c'est comme un hommage envoyé à ceux qui sont en poste et à ceux qui se sont déjà fait remercier. Oui, messieurs, chapeau, messieurs, les managers, car vous faites un sacré métier.
Allez, deuxième partie de Poulain Raffut. Raph, aujourd'hui, on a la chance d'accueillir le manager de la section paloise, Sébastien Piccheroni, un manager pas forcément comme les autres, dont on dit qu'il compte parmi cette nouvelle génération de techniciens. Et tu voulais en savoir plus, c'est bien ça, Raph?
Arnaud, le parcours de Sébastien Piccheroni, moi, m'intrigue parce que, comme on l'a dit, pour en avoir connu un, les meilleurs joueurs ne sont pas forcément les meilleurs entraîneurs. Alors, salut Sébastien, merci d'avoir accepté l'invitation. Je vais te balancer, en fait. On avait enregistrement ce matin à 10h, il est 18h et on arrive enfin à enregistrer cette émission. Donc, c'est un peu délicat de te poser cette question. Est-ce que tu te considères comme un manager 3.0? Est-ce que ça te parle? Mais je ne pense pas parce que tu n'as pas réussi à te connecter ce matin, tu vois.
Salut Arnaud, Salut Raph, bonjour à tous. Non, j'ai bien noté qu'on avait rendez-vous aujourd'hui. Nous sommes bien aujourd'hui, hein? Donc,
Absolument.
je t'écoute.
Allez, c'est parti.
Est-ce que tu te sens différent pour répondre à la question de Raph? Est-ce que tu te sens différent parce que tu n'as pas le même parcours que beaucoup d'autres managers, Sébastien?
Bon, différent, je ne sais pas. En tout cas, j'ai l'intuition de faire un métier différent, oui, de faire un métier particulier. Donc, forcément, ça doit amener des gens différents. Et j'imagine que chaque parcours est unique et particulier. Donc, en ce sens, je me sens différent, mais j'imagine comme chacun de mes collègues, tout simplement.
Bon, avant de poursuivre vos échanges, messieurs, je vous propose, Raph, que tu nous dresses le portrait de Sébastien Piccheroni façon Poulain Raffut. C'est maintenant.
Allez, Sébastien, on a un point commun, toi et moi, au-delà du fait de faire partie de la même génération, c'est qu'on a arrêté le rugby à 25 ans, tous les deux, pour cause de blessures à répétition. Un autre point commun, c'est qu'on aime ce sport et ce qu'ils font. Alors, je le disais en préambule, il faut être complètement cintré pour avoir été joueur pendant une bonne vingtaine d'années et vouloir y rester en passant de l'autre côté. Alors, il y a des tableaux plus jolis que d'autres et le tien est plutôt pas dégueulasse. Jusqu'à maintenant, tu as été joueur au Stade Aurillacois, puis à l'ASM, avant de passer par Issoire, Gennevilliers. Putain, on a failli jouer ensemble, parce que quand j'arrête ma carrière, j'ai failli aller à Gennevilliers, quand même, tu vois. Mais bon, trop blessé. Bref. Puis tu es passé par le FCTT Rugby. Tu as géré le Pôle Espoir de Toulouse à partir de 2007, où tu as suivi la progression de jeunes pépites comme Sébastien Bézi, Jean-Marc Doussin, Guignan Galland, Geoffrey Palisse, Teddy Ribaren, Antoine Duplon, Florian Verrière ou encore Romain Tamac. Pour ne citer qu'eux, hein, on cite le haut du panier, mais tu as dû avoir passé quand même beaucoup de gonzes. Ensuite, tu as entraîné les moins de 17, les moins de 19 pour devenir double champion du monde avec les moins de 20 ans en 2018 et 2019. Alors, si le rugby français se porte aussi bien aujourd'hui, c'est un peu beaucoup grâce à toi et ton staff et qui a révélé une génération en or. Alors, au-delà de la gestion d'une génération qu'on peut qualifier de dorée, comment on devient un manager de rugby dans le contexte actuel? Tu es depuis mai 2021 manager de la section paloise, arrivé dans un contexte délicat à un mois de la fin de saison. C'est cadeau. Moi, j'aimerais comprendre ta vision du métier, du manager, car tu fais partie, selon moi, de la nouvelle génération qui n'est plus sur un management patriarcal avec des couilles du cœur en guise de motivation. Comment aujourd'hui on gère les égos? Comment on gère un groupe? Comment on gère une nouvelle génération? Comme on le sait, les mentalités ont évolué, les joueurs aussi. Voilà, j'aimerais savoir un peu comment ça se passe pour toi de l'intérieur. On a le même âge à peu près, hein, t'as 45 piges, hein, c'est ça?
Ouais, je crois que t'es 79, toi.
80,
80, j'ai 2 ans de plus, je suis bien plus mature. Moi, je pense, 2 années, ça fait la différence.
On va te découvrir ça, j'aime bien. J'aime découvrir. Donc, juste la définition du style de management, c'est-à-dire, on a connu, toi et moi, quand on était joueurs dans les années 2000, voilà, ce management avec des couilles du cœur, et encore, on avait encore les coups de boule dans les vestiaires, ça se faisait moins quand même à l'époque, on était déjà commotionnés avant même de rentrer sur le terrain, tellement on se mettait des marmites dans les vestiaires. Aujourd'hui, ça a évolué, aujourd'hui, on n'est plus du tout dans le même contexte. Comment, c'est quoi toi, ta vision du management?
Oui, alors, juste avant de parler de vision, oui, tu parles de parcours. Bon, c'est vrai que le hasard ou l'intuition de mon parcours fait que je n'étais pas spécialement destiné ou prédestiné à devenir manager. Moi, j'adorais entraîner. Ça me plaisait, que ce soit dans le suivi individuel ou dans l'entraînement de l'équipe. Donc voilà, je l'étais un peu par hasard, par intuition, de Didier Retière aussi. Voilà, aujourd'hui, ça me passionne. Et moi, ce qui me passionne, c'est tout simplement la matière humaine. Je crois que voilà, il y a le rugby au milieu, il y a le projet collectif. Et pour répondre à ta question, je crois que c'est tout simplement voilà, essayer de trouver un point commun à des hommes ou une ligne directrice à des hommes qui, chacun d'eux, a ben voilà, un projet individuel ou en tout cas un besoin d'épanouissement individuel. Donc c'est dans cette dualité, entre guillemets, que doit se résumer le métier, tenir prioritairement soin de chacun de ces hommes ou de chacune de ces unités, et puis essayer de rallier tout le monde à un projet commun. Et voilà, c'est ce qui nous épuise au quotidien, je crois.
Ouais, je l'ai dit d'ailleurs, tu es arrivé à la section en cours de saison alors que tu n'avais jamais managé un club de top 14 et tu n'avais jamais managé des mecs de plus de 20 ans, en tout cas sur l'aspect professionnel. Est-ce que tu étais contraint, enfin contraint, bah, appris en fait à t'adapter aux joueurs que tu avais face à toi?
Oui, évidemment. Après, tu te nourris de l'environnement. Évidemment que chaque environnement te donne plein d'informations. Mais je ne sais pas si je vais te surprendre, mais pour moi, c'est exactement la même logique ou le même métier, hein. À partir du moment où il y a un projet et des hommes, alors certains sont plus jeunes que d'autres, d'autres sont plus expérimentés que d'autres, d'autres, on l'entend dire, sont plus professionnels que d'autres. Mais non, j'ai la sensation d'exercer, entre guillemets, les mêmes fonctions ou les mêmes responsabilités que dans mes métiers d'avant, si ce n'est que, comme tu l'as dit, l'environnement est différent. Donc l'environnement te donne d'autres informations, d'autres rapports de pression. Donc c'est des fois voilà, des points qui peuvent être différents, mais la nature des relations sont les mêmes, hein. C'est toujours s'intéresser prioritairement à la matière humaine et essayer de l'optimiser dans un environnement voilà, de concurrence, d'émulation, de pression et puis prioritairement d'ambition commune. Et c'est là où je crois que Des fois, on se fait un monde du monde professionnel. Oui, il y a beaucoup de pression, mais le challenge sportif à l'intérieur est le même. Que tu entraînes en fédéral, que tu entraînes des mini-poussins, que tu sois passionné pour le développement de moins de 18 ans ou que tu entraînes l'équipe Ballandra d'Agennevilliers, tu aurais dû y aller, Raph. Mais effectivement, je crois que c'est exactement la même chose. Voilà, faire adhérer à un projet collectif une somme d'individus. Et pour avoir une chance de faire adhérer ces individus en tant que collectif, eh bien, il faut voilà, s'intéresser prioritairement à chaque unité, donc à chaque homme.
Sébastien, justement, tu parles de faire adhérer des hommes à un projet. Ton vécu à la section n'est pas encore immense, mais on a le sentiment que tu poses ta griffe petit à petit. On le voit sur ce début de saison qui va quand même crescendo, avec encore ce week-end un point de bonus défensif pris chez le dernier finaliste du top 14, avec une victoire qui n'est peut-être pas passée très loin d'ailleurs. Est-ce que c'est ton sentiment et est-ce que tu as le sentiment que ta méthode demande du temps et est-ce que tu en as?
Oui, alors, comme toute méthode, elle demande du temps. Je crois qu'aujourd'hui, c'est le bien le plus précieux dans notre métier. Et pourtant, on en a bougrement besoin. C'est évident. Après, je ne sais pas si ça prend sa griffe encore. Ça, la seule chose dont je suis persuadé, c'est qu'on travaille beaucoup. Ça, j'en suis persuadé. La seule chose dont je suis convaincu, c'est que voililà, j'ai la chance d'avoir un staff et un environnement club qui aujourd'hui m'accompagne beaucoup, me supporte beaucoup. Et voilà, si j'ai une seule devise, entre guillemets, c'est tout seul, je suis certain de n'arriver à rien du tout. Et aujourd'hui, je me sens entouré. Et je me sens entouré de manière stable. Donc, c'est trop prétentieux de dire que ça porte encore ses fruits parce qu'on n'est qu'au début de la construction et de l'aventure. 18 mois, c'est très court dans un projet sportif. Maintenant, voilà, ma certitude, c'est que on avance ensemble et on avance avec conviction. Ça, pour moi, c'est très important.
Le président Pondelot, il a dit dans la presse qu'il était allé te chercher notamment pour ta faculté pardon, à faire grandir les jeunes joueurs. Le mec a quand même deux titres de champion du monde, donc il a eu le blaze quand même. On le voit chaque week-end, quand même, depuis le début des saisons. Tu lances beaucoup de jeunes, mais ce n'est pas sans risque. Donc, comment on gère justement cette jeunesse qui arrive dans un monde professionnel? Et comme tu l'as dit, depuis 18 mois, d'autres sont arrivés dans des clubs peut-être un peu plus structurés, avec un peu plus de moyens. Je vois Montpellier quand Philippe Saint-André était arrivé pour sauver le club, et ils sont devenus d'ailleurs champions assez rapidement. Ce n'est pas du tout la même problématique qu'à Pau. Comment tu arrives à structurer ton projet justement avec cette jeune génération qui arrive? Tu l'as dit, tu es bien encadré, tu as ton staff. Comment on gère la psychologie des joueurs au quotidien?
Mais en fait, par rapport aux jeunes, déjà, on essaie de pas trop mal les choisir, hein, parce qu'un jeune joueur, en fait, quand il est très bon, tu t'aperçois plus qu'il est jeune, tu dis tout simplement qu'il est bon. Donc, il faut essayer de pas trop se tromper, premièrement. Mais en général, sur les meilleurs, on est tous d'accord. Et puis, surtout, il faut veiller, voilà, à bien les accompagner, parce que je crois que le meilleur parcours pour donner confiance à un jeune, eh bien, c'est qu'il soit bien accompagné au quotidien par un squad et d'autres joueurs expérimentés et concurrentiels autour de lui, et puis bien accompagné dans une équipe, voilà, qui a du leadership, qui a de l'accompagnement. Donc, avant toute chose, je crois que lancer les jeunes, je ne sais pas si ça veut dire grand-chose. En tout cas, je suis persuadé que notre rugby professionnel si exigeant peut en tout cas être un terrain d'expression de nombreux jeunes à fort potentiel, sous couvert, voilà, qu'ils soient accompagnés, qu'ils soient dans un environnement stable et porteur. Et ça, c'est la difficulté de nos environnements, avec des matchs sous forte pression tous les week-ends. Et c'est pour ça qu'on essaie d'équilibrer les équipes avec des jeunes, des moins jeunes, mais le plus souvent, le plus d'excellents joueurs possibles sur le terrain.
Dans ta méthode, d'ailleurs, on a le sentiment qu'il y a une forte individualisation hein, du joueur, notamment chez les jeunes qui sont en développement. Est-ce que, alors, sans en faire thèse, antithèse, synthèse, tu peux nous détailler un petit peu ta méthode, Sébastien?
Je ne pense pas que ce soit une méthode, hein. C'est surtout voilà, un mode de fonctionnement lié à notre bassin, lié à notre club, lié à notre environnement. Voilà, aujourd'hui, nous, on n'a pas la chance d'être dans le bassin toulousain, dans le bassin lyonnais ou dans le bassin parisien. Donc, on essaie d'optimiser toutes nos ressources. On est sûr qu'on en a et on veut voilà, en tirer la quintessence. C'est pour ça qu'on mise sur un certain nombre de jeunes, plutôt un nombre réduit. Par contre, ces garçons-là, on veut leur donner tous les moyens du club parce qu'on veut accélérer leur évolution voilà, des moins de 17 aux moins de 22. En tout cas, on veut tout faire pour ne pas les gaspiller, ne pas les gâcher. Donc concrètement, ça veut dire qu'on a voilà, des staffs professionnels qui les accompagnent et qui, au-delà d'appartenir à un collectif Crabos, un collectif Espoir ou un collectif Centre de formation, ben, les considèrent comme voilà, des pépites du club à polir et on se donne 2-3 ans pour les amener jusqu'à l'équipe première. Donc, ça veut dire un plan de succession bien établi, ça veut dire cibler des garçons, ça veut dire choisir. Donc, choisir, c'est s'engager fortement. Et ça veut dire donner tous nos moyens ou nos uniques moyens sur un nombre d'élus restreints. Donc, voilà, c'est une politique aujourd'hui qu'on assume totalement. Mais au-delà d'être une méthode, je crois que c'est tout simplement un modèle qui colle à notre environnement, à notre économie de club et à notre bassin, tout
Ah,
simplement.
ce qui peut être assez frustrant dans ce que tu dis, enfin, c'est que tu fais grandir les joueurs au risque de les voir aussi partir après la section. Est-ce qu'elle a les moyens de garder ces jeunes pépites? Parce que rien, enfin, est-ce qu'il y a justement un, voilà, enfin, j'allais dire un serrage de main, mais comme à notre époque, justement, où il y a un engagement moral de dire, voilà, tu vas jusqu'à 22 et tu restes à la section derrière, parce qu'il y a quand même d'autres clubs, justement, que tu as cités, hein, d'ailleurs, le Loup, à Paris. À Toulouse, voilà, c'est un peu les projecteurs. Donc, il y a aussi une volonté, je le disais dans mon premier, dans ma ruade, que voilà, il y a une volonté aussi de faire carrière individuellement. Donc, comment arriver à les faire adhérer au collectif sur du moyen terme?
Mais
Voilà ma
c'est là
question. Elle
où
était longue, hein, elle était longue, mais elle est là.
elle est longue, mais elle est très précise. Et c'est pour ça que le projet de la section se veut puissant et très puissant parce qu'il veut justement allier le court terme au long terme. Donc, sur le court terme, c'est justement attirer des jeunes joueurs à très fort potentiel, en leur, non pas en leur promettant, mais en leur garantissant un environnement sur lequel ils peuvent mériter du temps de jeu qui va les accélérer, qui va les booster, qui va les développer. Et puis en même temps, sur le moyen terme, ben voilà, faire progresser la section sur toutes ses ressources et ses fondations pour que d'ici très peu de temps, voilà, on soit concurrentiel pour être au-delà d'être légitime en top 14, ben être un club qui compte et qui un jour se qualifiera en top 14. Donc c'est à nous d'avancer sur ces deux dimensions et je crois que c'est toute la puissance du projet de la section à l'heure actuelle.
Sébastien, quand on fonctionne avec un effectif comme le tien, quand on travaille de cette façon, est-ce que on a besoin d'avoir finalement des garanties de la part d'un président? On sait que l'effectif de Pau n'est pas celui du Stade Toulousain, ni celui du Racing ou de Montpellier. En gros, est-ce qu'on peut travailler sereinement ou est-ce qu'il y a le risque, comme dans n'importe quel club finalement, de se faire virer du jour au lendemain?
Bon, le risque, oui, à partir du moment où tu fais ce métier, il existe. Après, je vais te dire peut-être quelque chose qui va te surprendre. Le risque, moi, m'a absolument jamais inquiété, tout simplement parce que pour l'instant, je me sens libre de faire ce métier comme je l'entends. Ce n'est pas spécialement un métier que j'ai choisi, que j'ai voulu faire, que j'ambitionnais, que je rêvais. Voilà, j'ai coutume de dire que j'étais très heureux avant. Je pense que je serai très heureux après quand je ferai autre chose. Par contre, voilà, j'ai envie de réussir quelque chose. Si je suis ici, c'est que, voilà, j'ai eu, je pense, une. Comment dire un profond, ça a matché profondément quand j'ai rencontré Pierre et Bernard ici sur le club. Et je pense qu'on s'est totalement aligné avec le directeur général et le président sur l'idée de construire quelque chose. Et c'est cette idée de défi, de construction, de challenge et de réussir un projet qui m'anime. Et pour l'instant, voilà, on est aligné comme lors de notre première rencontre. Et c'est ça qui est excitant. Et aujourd'hui, voilà, j'ai le privilège de vivre mon métier dans une unique réalisation de challenge. Alors avec des hauts, avec des bas, mais avec voilà, l'unique obsession de réussir un challenge.
Tu parlais de réussite, on va quand même revenir sur le passé qui n'est pas si lointain, avec ces deux titres de champion du monde. On ne peut pas passer sous silence justement tous les jeunes joueurs que tu as eu entre les mains et qui font aujourd'hui le bonheur du 15 de France. Est-ce qu'il y a un peu de fierté de se dire qu'on a contribué quand même au renouveau du rugby français? On l'a souvent dit ici, hein, on a bouffé une belle tartine de merde quand même, et on attendait justement, on a attendu, on a espéré, jusqu'à l'épuisement, on s'est dit jusqu'en 20, et puis ces deux générations, un coup sur coup, qui sont championnes du monde. Il y a de la fierté d'avoir contribué, de contribuer au renouveau du rugby français, quand même, parce qu'on sait que tout passe par l'équipe de France, quand même, ou beaucoup.
Ouais, je sais pas si c'est de la fierté. En tout cas, il y a énormément de chance et énormément de bons souvenirs d'avoir participé à cette aventure. Mais je me sens comme l'un des participants uniquement. C'est vrai que très souvent, on médiatise très peu les générations 97, 96, qui elles avaient fini voilà 9e, 4e au championnat du monde avec d'autres collègues. Mais en tout cas, qui avaient aussi un talent fou. Et ils avaient peut-être eu voilà un peu moins de chance, un parcours peut-être un peu moins cohérent, peut-être un peu moins d'accompagnement tout court, un peu moins d'alignement club-fédération. En tout cas, voilà, je crois qu'il faut saluer aussi tout le travail qui a été fait par les clubs, par la fédération, par tous les encadrements, toute la synergie qui a été faite autour d'eux. Voilà, j'étais l'un des modestes acteurs. Évidemment que ça me rend heureux d'avoir eu ces émotions-là, mais voilà, je sais qu'il y a énormément de gens qui ont travaillé en amont, que nous, voilà, ça a souri pendant deux saisons, et tu appelles ça la génération dorée, mais je constate aujourd'hui en équipe de France, il y a aussi beaucoup de garçons, 96, 97, même 95, donc ça veut dire que tout simplement que le rugby français, il est riche, et si on doit en tirer un unique enseignement, c'est soyons fiers de la richesse de notre rugby français, et ce dont je suis fier, voilà, c'est d'avoir appartenu et d'avoir été salarié d'une fédération, d'appartenir au rugby français qui enfante voilà, des fabuleux joueurs de rugby, tout simplement. Alors, certaines générations ont eu des parcours peut-être un peu moins polis, un peu moins calibrés, un peu moins équilibrés. En tout cas, je suis persuadé que le rugby français est capable de former des joueurs qui un jour seront champions du monde, et j'espère qu'ils seront champions du monde durablement au plus haut niveau, non pas chez les moins de 20, mais chez les grands, tout simplement parce que notre formation française le mérite.
Justement, puisqu'on Raph l'évoquait, tu as formé quand même ça, une tripotée de joueurs, en tout cas, qui sont passés entre tes mains, Sébastien, qui évolue aujourd'hui au plus haut niveau. Est-ce que tu gardes beaucoup de contacts avec ces joueurs-là? Est-ce que on a le sentiment, enfin, pour en avoir discuté avec certains, il y a quand même un lien très fort qui vous unit, notamment avec ce premier titre en 2018 et même avec ceux du titre de 2019. J'en parlais il n'y a pas très longtemps avec Julien Delbouis. Il s'est passé quand même quelque chose de très fort. Quel lien vous gardez tous ensemble?
Ah, ben des liens. Oui, on garde des liens évidemment très forts. L'avantage du top 14, c'est que tous les week-ends, tu es sur un terrain et tous les week-ends, tu en croises, avant match, après match. Ça, c'est très, très sympa. Et puis voilà, j'ai la chance d'en avoir dans mon environnement quotidien sur le club, à la section paloise. Donc, évidemment que c'est des liens forts, c'est des liens qui nous unissent, pas spécialement en se parlant souvent, mais des fois, un regard, tu croises quelqu'un ou tu as forcément de l'affection pour ces garçons-là. Non, c'est évidemment des choses... Voilà, qui ont marqué notre parcours et qui resteront gravés très longtemps.
Ça aide pour les recruter éventuellement ?
Ah, pas toujours, pas toujours, pas toujours. Mais non, mais en tout cas, c'est évident qu'on garde ces liens affectifs. Mais tu sais, après, c'est pas le lien affectif qui fait qu'un joueur souvent choisit un environnement. Il faut que l'environnement colle, il faut que l'environnement concurrentiel de poste, que le challenge sportif... il faut que beaucoup de choses collent. Et voilà.
Il y a l'aspect financier, on ne va pas se mentir aussi.
Évidemment, mmh. L'aspect financier, et puis voilà, l'aspect aussi, surtout d'honnêteté. Donc, avec beaucoup de garçons, le plus important de notre relation, c'est de rester honnête. C'est le plus important. Le reste, c'est que du rugby. Hein.
Alors, Seb, pour être le plus honnête, quel est le mec le plus talentueux que tu as rencontré sur cette génération 2018-2019 2020
oh là, question piège.
Bah, tu peux m'en citer trois si tu n'as pas envie d'en vexer un.
Oh non. Je t'en citerai pas un. Sinon, le mec le plus talentueux et sur la liste, je te dirais, c'était mon intendant, Keke Musser. Il se souviendra de moi. Lui, il était talentueux parce que totalement improbable. Mais non, c'est très difficile pour moi de te sortir un garçon talentueux. Pourquoi? Parce que je pense que beaucoup avaient du talent et puis je pense que certains l'ont révélé vraiment à la hauteur de ce qu'ils avaient, d'autres un peu plus, d'autres un peu moins. Mais qu'est-ce que le vrai talent? Le vrai talent, c'est peut-être d'optimiser. Tu sais, on va noter ceux qui vont être champions du monde, je pense, l'année prochaine, tu vois, qui seront allés jusqu'à l'équipe de France. Et puis, il y en a d'autres qui ne seront pas allés jusqu'à l'équipe de France et qui ont sacrément optimisé leur talent, hein, qui sont des joueurs professionnels aujourd'hui, dignes d'être en Pro D2 ou en Top 14. Et pour moi, c'est une sacrée réussite aussi que d'optimiser tout son talent. En tout cas, j'ai le sentiment d'avoir eu la chance de croiser beaucoup de garçons qui optimisent leur talent. Ça, c'est chouette.
J'ai une petite question un peu à part. J'ai eu la chance de faire la tournée des Pôles Espoirs en 2013. Et il y avait beaucoup d'appelés et peu d'élus. Un message à faire passer à ceux qui ont été appelés, qui ne sont pas allés au bout, qui ont fait partie de l'aventure, mais qui n'étaient pas sur le terrain. Parce que je sais qu'en 2013, et pour en avoir discuté justement après avec certains entraîneurs de Pôle Espoirs, quel message on fait passer justement à ces joueurs? Parce qu'il y en a beaucoup qui ont arrêté le rugby, un peu dégoûté, parce que tu es à un âge en fait où la transition elle est délicate, parce que tu ne touches pas au Saint Graal, tu ne touches pas au Top 14, tu ne touches pas à la Pro D2. Beaucoup ont arrêté. Quel message on peut faire passer, toi qui justement as connu cette génération et qui est depuis 2007, tu es dans le bain. Donc, quel message à faire passer à ces mecs? J'ai une pensée pour eux et la question n'était pas prévue, mais...
Ta pensée est très juste parce que, tu vois, paradoxalement, la première question que tu m'as posée, c'est si j'avais des contacts et des souvenirs avec les garçons avec qui j'avais été champion du monde. Et pourtant, je vais t'avouer que j'ai au moins autant de contacts avec des garçons qui aujourd'hui ont arrêté le rugby, jouent en fédéral, sont médecins, l'un est chirurgien, je l'ai appris il n'y a pas longtemps, et j'étais très heureux de l'avoir au téléphone. L'autre encore, j'ai encore vu son papa hier à Castres et qui m'a passé le bonjour et ça m'a beaucoup touché. Donc, tu vois, on garde des liens finalement presque plus proches et presque, pas plus importants, mais en tout cas aussi nobles avec ces garçons-là. Et non, le message qu'on peut leur faire passer, c'est que, eh bien, on espère que ces années, entre guillemets, d'athlètes ou que ces années de sportifs de haut niveau les ont construits et les ont construits prioritairement sur leur vie d'homme. C'est ça qui est important, comme on l'espère d'ailleurs pour nos internationaux français, ceux qui vont être champions du monde, je l'espère, j'en suis tellement convaincu que j'arrive presque à l'affirmer, donc il faut être humble par rapport à ça. Mais en tout cas, j'espère que ceux qui se dirigent vers amener la France champion du monde, mais voilà, seront surtout heureux d'avoir eu ce parcours qui les a construits en tant qu'hommes, parce que la finalité de tout ça, elle est là, je pense.
Pour conclure sur la section paloise, quels sont les objectifs aujourd'hui à moyen et long terme? On va parler de court terme parce que déjà à court terme, il y a eu cette victoire, cette défaite à digérer déjà ce week-end. Je pensais que vous alliez le faire, quoi. Merde,
Tu
la défaite.
veux, ouais,
C'est pas passé loin.
mais c'est pas passé, hein.
Donc, le ouais, objectif de la section à moyen et long terme, pouvoir s'installer durablement dans les 6, pouvoir atteindre le Saint Graal. Enfin, on vous le
Non,
souhaite,
mais
mais.
nous, l'ambition, elle est claire. L'ambition, elle est de grandir année après année, donc de grandir structurellement, d'avoir des fondations qui nous permettent d'être légitimes et légitimes durablement en top 14. Parce qu'aujourd'hui, tu observes comme moi que le top 14, c'est une jeune qui grandit d'année en année, qui se densifie d'année en année. Donc nous, il faut qu'on soit beaucoup plus fort, beaucoup plus robuste, des fondations beaucoup plus solides pour y être légitime et durable d'année en année. Et puis voilà, dans l'idée de grandir, c'est faire mieux d'année en année. Et puis voilà, faire partie du premier collectif qui arrivera à qualifier le club de la section paloise dans le top 6 de top 14, parce que ce club a plusieurs fois été champion de France, s'est déjà qualifié en top 16, a déjà fait les finales. Mais voilà, depuis que le top 14 existe, aujourd'hui, le club a envie d'écrire une histoire et que le club arrive à se qualifier pour ce qui est aujourd'hui le robuste top 14.
Tu as franchi toutes les étapes en fait pour atteindre le top 14. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté individuelle ou un rêve d'atteindre justement de reprendre au niveau fédéral et pourquoi pas la grande équipe de France un peu plus tard?
Ah, tu veux que je t'avoue, la volonté et mon rêve, c'est d'avoir du temps, voir grandir mes filles, m'occuper de ma
Ah,
famille,
grave,
rénover ma
grave.
grange dans le Cantal. Donc
Ouais.
oui, j'ai un besoin d'avoir du temps et un jour de pouvoir le consacrer 100% à ma famille. Tu as raison.
Génial, génial.
Bon, ça tombe bien, c'est un très joli conclusion, Sébastien. Moi, j'avais juste un dernier éclairage. Tu as travaillé dans la formation, tu travailles. La pression, elle est la même, parce que j'imagine que quand on forme des jeunes joueurs, on se met une pression aussi très forte, personnellement, pour la réussite de ces joueurs et de ces hommes, comme tu l'as souligné.
Oui, mais tu parles de pression. Alors, oui, la pression de l'environnement extérieur, elle est décuplée, elle est intense, elle est multiple. Après, bon. Aujourd'hui, c'est voilà, ça fait partie du décor. J'étais prévenu, je le sais, je vis avec, je l'absorbe, ça me pose pas de souci. Par contre, je crois que ce qui est totalement similaire et le plus important de nos métiers, c'est la pression que l'on se met. Quand tu fais ce métier, quand tu te diriges vers le haut niveau, c'est forcément que tu as une exigence extrême envers toi, envers les autres. Donc, la pression, je vais te dire modestement, c'est la même. Aujourd'hui, voilà, quand tu es déterminé à donner le meilleur toi-même, que tu t'adresses au Pôle Espoir à un jeune moins de 17 ans, que tu veux tout faire pour qu'il ait son bac avec mention et qu'il postule pour l'équipe de France des moins de 18 ans, finalement, c'est la même que la préparation du match de Casse en top 14 hier. C'est juste un rapport d'exigence vis-à-vis de soi-même. Donc, je pense que le plus important pour moi, c'est de te parler de la pression ressentie et de la pression individuelle. Donc, la pression que je me mets moi-même au quotidien. Et pour l'instant, j'ai l'impression que ça fait 2 décennies que c'est la même.
Eh bien, ça, voilà, encore une très belle fin. Raph, c'est pour toi le mot de la fin.
Ah, je t'aurais bien gardé une bonne demi-heure de plus. Non, mais j'ai juste un mot à dire. En fait, ça pue l'humain et je ne suis pas déçu. Enfin, après, je connaissais peu l'homme. Mais voilà, le manager, ça, c'est, voilà, je trouvais que le résumé que j'ai pu faire du métier de manager sur ma ruade il y a un petit quart d'heure, ben, en fait, correspond tout à fait à ce que tu vis. Donc, on ne s'est pas loupé justement pour représenter ce métier que d'avoir un mec comme Seb Piccheroni et de dire que ouais, tu es quand même un mec qui est sur du 1.0, tu n'es pas sur du 3.0, tu n'es pas sur du digital. Tu restes à l'ancienne et justement, c'est ce qui marche aussi. Non, de belles valeurs partagées et ravi de ce moment passé avec toi, Seb. Vraiment.
Merci à vous et félicitations pour ta ruade. Franchement, chapeau. Ouais.
Merci beaucoup. À
Merci messieurs, on
bientôt.
va passer
Au
à la troisième partie de Poulain Raffut. Allez, troisième partie, Raph. Aujourd'hui, un petit coup de cœur pour une personnalité atypique dans le monde du rugby. Il s'appelle Wally Salvant. Il est le fondateur des pratiques du rugby en fauteuil roulant, c'est bien ça?
Ouais, Arnaud, bah, c'est un coup de cœur. Oui, mais je m'étais promis, engagé de mettre en avant son initiative parce que c'est du rugby à 7. C'est un rugby qui se pratique, comme tu l'as dit, en fauteuil, à la fois pour les valides et les non-valides. Donc, le mieux pour en parler, c'est lui. On lui a demandé justement qu'il témoigne un petit peu de l'aventure qu'il va vivre sur les 3 prochaines semaines à travers l'Europe. En fait, il va aller évangéliser un petit peu le monde du rugby pour que le rugby à 7 fauteuils soit reconnu. Donc, le mieux pour en parler, bah, c'est lui. Et, voilà, on l'écoute.
Voilà, je m'appelle Wally Salvang, je suis le fondateur des pratiques du rugby en fauteuil roulant. J'ai créé notamment le rugby à 13 en fauteuil en 1999, puis j'ai créé le rugby à 7 en fauteuil en 2011, voilà, qui est une pratique encore beaucoup plus inclusive puisque les tétraplégiques peuvent jouer avec nous. C'est une pratique triplement mixte, où les filles et les garçons, qu'ils soient valides ou pas, jouent ensemble. C'est une pratique intergénérationnelle, puisque tu as des parents qui peuvent jouer avec leurs enfants. Voilà, il y a tous les âges. En gros, si tu veux comparer un petit peu le rugby à 7 en fauteuil à une discipline qui existe, on va dire que c'est les auto-tamponneuses de la fête foraine. Tu vois, on a des engins et on ne regarde pas qui rentre dedans. Ça peut être n'importe qui et on joue tous ensemble. Voilà, donc la colonne vertébrale du rugby à 7 en fauteuil, c'est le vivre ensemble. C'est la co-inclusion, c'est un projet social, d'intégration sociale, voilà. Et c'est vraiment du sport d'intérêt général qui disparaît petit à petit pour laisser place au sport business, voilà. Et c'est un peu dommage. Donc j'ai repris un petit peu toutes les valeurs du rugby qu'on retrouve dans le rugby à 7 en fauteuil. D'ailleurs, si tu n'en as jamais vu, je peux te donner un sifflet, tu peux arbitrer tout de suite. Les règles sont les mêmes. Tu fais un en avant qui ne profite pas, tu ordonnes une mêlée. Voilà, donc nous avons des mêlées poussées, nous avons des drops, même si tu as amputé des deux jambes. Nous avons des vrais essais où on aplatit le ballon, on joue avec un ballon ovale, tout ce qui est devant le ballon est hors-jeu, on fait des passes en arrière. C'est le même système que le rugby à 7, hein, on fait des mêlées à 3 contre 3. Donc voilà, tous les fondamentaux du rugby à 7 sont respectés, toutes les valeurs du rugby sont présentes, voire même peut-être un peu plus. Donc voilà en gros la petite présentation du rugby à 7 en fauteuil. Alors maintenant mes projets. Alors on a un gros projet là puisque on a créé notre fédération internationale de rugby à 7 en fauteuil il y a maintenant 3 ans au début du Covid. Et bon on s'est dit voilà on n'a pas de place pour la mixité. C'est où tu as des fédérations valides pour les handis, pour les valides pardon, ou des fédérations pour les handis. Mais la mixité elle n'est pas reconnue. Donc on a créé notre propre fédération internationale, on dit on va voir un peu ce que ça donne. Et en 3 ans de Covid, on a quand même 31 pays qui se sont affiliés chez nous. Et là, j'ai une très 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 grosse demande sur l'Europe. Donc le prochain projet, je décolle du village des athlètes 2024 le 12 décembre. Voilà. Et je pars avec un fourgon et je vais faire 12 000 km sur les routes d'Europe pour aller former le Luxembourg, l'Allemagne, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, la Géorgie, la Turquie, la Grèce, l'Italie, la Sardaigne, l'Espagne, Andorre, Portugal. Vous allez voir, il y a un flash code sur les réseaux sociaux. Vous allez pouvoir me suivre. Je ferai mon retour sur Paris le 11 janvier. Le 11 janvier, le retour se fera au Rugby Club, voilà, boulevard Haussmann. Et donc voilà, j'espère que tu y seras. Et ça sera un plaisir de te montrer un petit peu toutes ces images.
Raph, c'est quand même une chouette initiative. Hein.
Oui, c'est une chouette initiative. Et puis voilà, le rugby, il n'est pas que à 15, il n'est pas que à 7, il n'est pas que à 13, il est aussi en fauteuil. Et ce que je trouve intéressant dans cette initiative, c'est que voilà, t'as de tout. On l'a toujours dit, hein. Il y a une race, c'est l'humain. Peu importe la couleur, peu importe que tu sois en fauteuil, peu importe que tu sois valide ou non valide. Je trouve que l'initiative était belle et il était bon de le mettre en avant parce que Wally le mérite et que. Il a envie de faire aussi sa Coupe du Monde aussi de rugby fauteuil. On lui souhaite en tout cas un sacré voyage et un très bon voyage.
Allez, Raph, puisque c'est bientôt les fêtes de Noël, je crois que tu voulais recommander un ouvrage qui s'appelle Gueule de rugby. Il est magnifique. Ça fait quelques années qu'il fait le bonheur de tous les amateurs de rugby. Est-ce que tu étais dedans déjà il y a quelques années?
Non, je ne l'ai pas encore fait. C'est le troisième tome et c'est Jean-Pierre Pagès qui a l'initiative de cette formidable. Enfin, pour moi, c'est une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art, c'est le troisième tome qui sort. D'ailleurs, Jean-Pierre va m'envoyer 2 exemplaires qu'on va faire gagner ici dans Poulain Affûte. Je vous laisse regarder les images, je vous laisse regarder justement quelques témoignages et puis on revient pour en discuter 2 secondes, Arnaud, si tu veux bien.
Nous, on ne s'est pas aimé. Hein. C'était une question d'ego. Beaucoup, beaucoup. En fait, c'était une histoire d'ego, surtout, et d'émotion. Et j'ai envie de te dire, on s'aime maintenant quand on se revoit 20 ans après.
C'est comme ça. J'ai pas été un grand joueur de rugby, mais j'étais un joueur correct. J'ai fait mes matchs de rugby, j'ai été sélectionné dans 2-3 trucs, j'ai été champion de France de Pro D2, mais j'ai eu un frère qui a toujours fait mieux.
T'as plus la grinta, t'as plus faim, et malgré le fait que tu sois ensemble, à part tes souvenirs, eh ben, tu sors du monde professionnel, parce que malheureusement, t'as plus ta place.
Si tu parles comme ça de Boniface, de Mazot, de Codorniou, de Nadal, je signe.
Et c'est vrai que dans ma chambre, j'avais le poster de Cédric Soulette, qui avait aussi fait quelques apparitions avec l'équipe de France. Et j'étais aussi fasciné et admiratif de ces plaquages tonitruants.
Qui c'est que vous, dans le genre, qui c'est que vous voulez tuer aujourd'hui? Parce que tout le monde criait tue-le, tue-le. Et moi, je ne m'étais jamais rendu compte.
Et on était lundi matin au café. Et là, les cousinés, les porcus, les bénettes et compagnie. Il faut les regarder dans les yeux. Et le seul qui m'a salué vraiment fortement et correctement, Jean Okrinka, qui m'a dit bienvenue au club.
Moi, j'ai regardé Dédé Bertozza et je lui ai dit bon, écoute, André, là maintenant, le ballon, à mardi, on ne touche plus le ballon. Et à partir de là, c'est parti vraiment en live.
Tous ceux qui ont joué avec moi de cette époque, je le dis avec émotion, je les considère comme des frères.
Oui, j'adorerais redevenir anonyme. Oui, oui, vraiment. Ce que je trouve dommage, c'est que ça ne soit pas partagé, en fait. Parce que j'ai pas été le meilleur joueur, je te l'ai dit, et j'en suis convaincu. Mais qu'on ait une équipe et un collectif, et tout le monde devrait avoir un peu de lumière.
Raph, magnifique ouvrage. Franchement, ça a de la gueule, pour reprendre un peu le titre de l'ouvrage.
Bah Arnaud, on le répète assez souvent ici aussi, hein, on a vécu un peu le même rugby. Nous, ce qu'on a aimé, c'est les histoires de bus, les histoires de troisième mi-temps, les grandes épopées sur le terrain, mais aussi en dehors. Et quand tu regardes la plupart des témoignages de gueules de rugby, tu te rends compte, en fait, avec beaucoup d'émotion, qu'on vit tous la même chose, à la fois dans le rugby amateur et le rugby professionnel. C'est ces histoires d'hommes qu'on aime, c'est ces émotions. Et ce que j'aime, c'est que Jean-Pierre arrive à aller chercher la sensibilité des deuxièmes lignes, des premières lignes, des troisièmes lignes, enfin, tous ceux qui ont cette pudeur et qui ne montrent pas grand-chose et qui n'ont pas montré grand-chose en termes d'émotion sur le terrain. Et bien là, ça transpire d'humanité dans ce projet, et je voulais le mettre en avant. Et bien sûr, on fait gagner 2 ouvrages de Gueule de Rugby, le tome 3, et je suis très heureux de mettre en avant cette initiative.
Ce sera évidemment à gagner dans les prochaines émissions, juste avant les fêtes de fin d'année. Et pour tous ceux qui n'auront pas la chance de gagner cet ouvrage, évidemment, vous pouvez vous le procurer dans toutes les bonnes librairies ou en grande surface. Raph, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure, évidemment, toujours avec la banane.
Merci à toi, Arnaud. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. On se retrouve, comme tu l'as dit, la semaine prochaine. Salut à toutes et à tous.